Merci, merci, Monsieur le Président. Je crois que j'ai mal entendu en disant que les droits collectifs étaient des nouveaux droits. Effectivement, depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la codification de toute une série de droits civils et politiques, économiques, socioculturels ou pour des groupes spécifiques, tous ces documents contiennent à l'évidence des droits collectifs. Juste deux petits exemples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'article premier commun aux deux pactes. Donc, à l'évidence, on parle des droits des peuples et c'est un droit collectif. Dans le même ordre d'idées, pour l'exercice des droits politiques qui nécessitent la création d'associations ou des partis politiques, forcément, c'est un droit collectif. Donc, tout seul, vous ne pouvez pas créer ni une association ni un parti politique. Je poursuis mes exemples avec les droits civils et politiques toujours. Dans l'accès à la justice, de nombreux pays ont reconnu dans leur législation le recours collectif. En anglais, on appelle class action. Parce que quand il s'agit de la pollution de l'environnement qui touche une communauté ou plusieurs communautés, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce n'est pas une seule personne qui est concernée, mais toute une communauté ou plusieurs communautés. Donc, certains pays ont pris des mesures pour permettre à ces victimes de se défendre ensemble, mais aussi pour faciliter les procédures. Bon. Il n'est pas nécessaire de multiplier les exemples. Si on prend aussi du côté des droits économiques, sociaux et culturels, un seul exemple, les droits culturels, la plupart du temps, c'est forcément collectif aussi. Donc, tous ces documents, Monsieur le Président, sont ratifiés par la plupart des États. Et tous les États membres de l'ONU sont tenus de respecter la Déclaration universelle. Donc, il n'est pas question de nouveaux droits, ni création de nouveaux droits, mais tout simplement des droits qui existent. Pour revenir à notre sujet de la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans des zones rurales, à l'évidence, Monsieur le Président, l'exercice de tout ce qui est énuméré dans cette déclaration nécessite un exercice collectif de ce qui est prévu dans cette déclaration. On prend l'exemple de la terre, de l'eau, des pâturages ou des ressources naturelles. Donc, on nécessite forcément une gestion collective, d'autant plus que les communautés paysannes, les communautés autochtones ou d'autres personnes vivant dans des zones rurales, que ce soit les pêcheurs et autres, ont besoin de se concerter pour la gestion aussi rationnelle de ces ressources, comme ça a été souligné par plusieurs délégations, Monsieur le Président, cette question de durabilité. Donc, ça nécessite une concertation afin de ne pas gaspiller ces ressources qui sont devenues de plus en plus rares. À ce propos, nous regrettons que la disparition du terme d'individuel et collectif dans l'article 3 qui donnait justement une dimension plus globale à cette question des droits collectifs, donc l'exercice des droits collectifs. Voilà, si on avait maintenu ce terme-là, ça nous faciliterait pas mal de tâches pour la lecture facile et cohérence de ce document. Je vous remercie de votre attention.